Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Lorsque la femme marocaine arrive au plus haut niveau, qu'elle garde son humanité, sa sensibilité, mais en même temps croit en elle, en ses compétences, eh bien ça donne ma femme d'aujourd'hui. On y va pour les détails.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Maha Cohen, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Je remercie Lala Maha, qu'est-ce que
Très très bien Yasmine, merci infiniment pour cette invitation. C'est un pur plaisir de participer à ton podcast.
Alors Maha Cohen, toi tu es présidente du directoire dans un groupe bancaire, c'est bien ça?
Exactement, je suis présidente du directoire de Daman Cash, qui est la filiale établissement de paiement de Bank of Africa.
Ok. Alors, ce qu'il faut savoir, et c'est de ça que nous allons discuter avec toi, c'est que tu es un pur produit marocain. Tout ton parcours a été au niveau du Maroc. Et donc, pourquoi on en parle? Parce que très souvent, on a l'impression que on a justement ces choses qui disent que finalement, il faut peut-être acquérir une expérience à l'extérieur, faire des études dans d'autres pays pour ramener une forme d'expertise. Toi, toute ton expertise, tu l'as construite sur le terrain national.
Tout à fait, Yasmine. Je suis effectivement ce qu'on peut appeler un produit 100% local. J'ai fait tout mon parcours au Maroc, collège, lycée. J'ai fait mes classes préparatoires à Rabat au lycée Moulay Youssef et puis j'ai fait mes classes d'ingénierie à l'ENSIAS, l'École nationale supérieure d'informatique et analyse des systèmes, qui est une école d'ingénieurs publique. C'est un flag que je porte avec énormément de fierté.
De fierté, je comprends justement. Alors, Maha, quand elle était plus jeune, quand elle était plus petite, est-ce qu'elle s'attendait justement à arriver à ce niveau professionnel? Est-ce que tu t'es déjà mis dans ta tête un plafond de verre?
Alors, absolument pas. Je ne sais pas si ça vient un petit peu de mon éducation, du milieu dans lequel j'ai évolué. J'ai évolué dans un milieu extrêmement bienveillant, chaleureux, un milieu où on demandait, oui, un milieu exigeant, une famille exigeante. On était un petit peu dans les voies de l'excellence, mais je pense que c'est le cas de toute une génération. Il n'y avait pas de projection particulière. On vivait chaque étape pour ce qu'elle représentait. Mais ce qui est sûr, c'est que à aucun moment je n'ai ressenti le besoin de quitter le Maroc ou de quitter ma famille pour m'inscrire dans la voie de l'excellence. Mmh. Ce besoin, je ne l'ai pas ressenti. Et donc, ces questions ne se sont même pas posées au moment où les différentes décisions ont été prises. Ce qu'il faut savoir, c'est que la formation à la marocaine, en tout cas la formation locale, apprend énormément de valeur. En tout cas, moi, j'en ai retenu beaucoup plus qu'une formation académique. Durant ma formation, les différentes étapes de ma formation, j'ai appris la valeur du travail, le travail constant, la rigueur, l'organisation. Ensuite, en classe prépa, j'ai découvert l'esprit de compétition, une compétition saine, celle qui nous pousse à nous dépasser, à faire mieux, à nous questionner, à absorber la pression, à accepter l'échec aussi. Et donc, moi, je suis convaincue que la formation, en tout cas celle à laquelle j'ai eu le plaisir de participer, elle forge des caractères. Mmh. Donc, on a appris, avec les moyens dont on dispose, à s'adapter, à faire preuve de résilience. Et puis, je l'ai compris plusieurs années plus tard, que ces valeurs-là, en tout cas les soft skills que j'ai développées pendant mon parcours, sont les soft skills que j'utilise le plus au quotidien, au cœur du management et du leadership.
Et pourtant, quand on parle d'ingénieur, on le reproche souvent de manquer de soft skills.
Et oui, pourtant, Et pourtant, ça, en tout cas, c'est mon cas. Ce que j'ai retenu de mes classes d'ingénierie et des classes prépa, ce n'est pas tellement les maths, l'expertise, la connaissance, mais c'est comment rester fort et résilient dans un milieu compétitif, comment s'adapter et être dans l'excellence. C'est pas simple, hein. C'est pas simple, sachant que ça je peux le dire et j'en suis fière et les statistiques le montrent aussi. Nous sommes, en tout cas les Marocains, nous avons des aptitudes scientifiques très très intéressantes et en classe prépa, le niveau était extrêmement élevé. Et j'évoluais au sein de personnes, d'élèves, avec des niveaux en maths, en physique extrêmement intéressants, extrêmement élevés. Et donc, j'ai dû me faire j'ai travaillé sur ma propre personne pour ne pas baisser les bras, pour continuer, pour y croire, continuer à y croire, évoluer et faire partie des meilleurs. Et c'est ça que j'ai retenu à la fin de mes classes prépa, c'est d'abord de la confiance, confiance en soi, apprendre à se faire confiance, apprendre à faire confiance à ce qu'on a la capacité de réaliser, et puis l'esprit de compétition et de résilience.
Alors justement, le Maroc se distingue par un taux élevé de femmes ingénieures, dépassant la moyenne mondiale, une moyenne d'environ au Maroc de 42-43%. Pourtant, rares sont celles qui arrivent à des postes de responsabilité. L'intelligence est là, la persévérance des études d'ingénierie pardon, est là, entre les prépas, on va dire la pression de la formation post-prépa. Et pourtant, au bout d'un moment, il y a ce plafond de verre qui prend le dessus. Est-ce que c'est la femme elle-même qui se met ce plafond de verre, ou bien c'est l'extérieur qui lui impose ça?
Je pense que c'est un petit peu les deux, Yasmine. Les parcours se diffèrent et puis on ne démarre pas tous au même point dans les mêmes organisations, en tout cas toutes, je veux dire. Je pense que c'est d'abord une histoire d'ambition. Est-ce que toutes les femmes ingénieures, en finissant leur classe d'ingénierie, ont l'ambition de continuer à persévérer pour arriver à des postes de management, de leadership? Je ne le sais pas. Je pense que culturellement, je vais dire, on attend de la femme à ce que d'abord qu'elle prenne soin de sa famille, de ses enfants, qu'elle construise un cocon, et puis oui, être active professionnellement. Ça dépend de la priorité que chacune de nous va donner à sa vie professionnelle et son accomplissement au sein de son organisation. Et je pense que on n'a pas toutes les mêmes ambitions et tous les choix se respectent. Tous les choix se respectent. Être une femme au foyer aussi, éduquer ses enfants, c'est éduquer la prochaine génération de notre pays. Et c'est un rôle qui est respectable et que les femmes peuvent porter avec beaucoup de fierté. Après, oui, effectivement, il y a des facteurs exogènes. Les femmes et les hommes ne sont pas perçus de la même manière et je pense que dans un milieu professionnel, on n'a pas les mêmes attentes. Ce qu'on attend d'une femme n'est pas nécessairement ce qu'on va attendre d'un homme. Les femmes ont plus de choses à prouver.
Approuvé.
Et là aussi, oui, et là aussi, c'est malheureusement culturel. Mais je tiens à le dire, j'ai eu la chance, hein, je sais que ce n'est pas le cas de toutes les femmes. J'ai eu la chance d'évoluer dans un milieu extrêmement bienveillant. Au sein de mon groupe, en tout cas les 15 premières années de ma vie professionnelle, à aucun moment je n'avais ressenti qu'être femme allait être un frein ou un ralentisseur au niveau de ma carrière. J'ai évolué dans un milieu qui est juste. En tout cas, où il n'y a pas de différence, en tout cas, ce n'est pas le genre qui fait la différence, mais plus la valeur ajoutée, Et puis les soft skills aussi, sa capacité d'intégration, à se faire une place, à devenir un maillon important dans la chaîne.
Alors aujourd'hui, Maha, par rapport à ça, si je peux me permettre, toi tu es présidente du directoire, justement. De par ton expérience de femme, qui a gravi tous ces échelons, mais aussi de par ta position aujourd'hui de top management, de leadership, quel est cet environnement qui crée justement cet espace positif pour la femme? Qu'est-ce que tu as appris de ton expérience que tu continues à cultiver et que tu peux finalement aussi communiquer aujourd'hui?
De manière naturelle, en tout cas à mon niveau et au niveau de Damalkash, je ne fais aucune différence entre les femmes et les hommes, que ce soit en termes d'attente ou de niveau d'exigence ou de comportement. C'est-à-dire que pour moi, il est important de créer un espace de travail où les personnes sont évaluées de par leur réalisation et non pas de par leur genre ou là où ils ont fait leurs études. Ce qui est important, c'est ce qu'on arrive à délivrer aujourd'hui et la projection qu'on en fait. Je ne fais pas de... Il n'y a pas de jugement par le genre. J'entends souvent dire que oui, les femmes pratiquent un mode de management un petit peu différent, plus dans la souplesse, plus dans l'influence, moins dans l'autorité. Mais je peux t'assurer, Yasmine, que je vois aujourd'hui, au quotidien, des femmes qui tapent sur la table, enfin, et qui ont beaucoup plus de personnalité ou de capacité à mettre en place un cadre d'autorité, et des hommes qui fonctionnent par un management peut-être plus souple, plus intelligent, plus par l'influence. Et donc, j'ai appris au courant de ces dernières années qu'il n'y a pas de management féminin ou masculin, il n'y a pas de leadership féminin ou masculin. Le leadership se fait par la personnalité, par qui on est, qui est ce qu'on a été, notre histoire et qui on veut être. Et donc, au niveau de Damalkash, c'est comme ça que les gens sont évalués, c'est comme ça que les gens évoluent, c'est par leur capacité à se positionner aujourd'hui et demain. Et c'est des choses qu'on voit dans pas mal d'autres entreprises. Malheureusement, ce n'est pas le cas partout. Il est malheureux de voir qu'aujourd'hui au Maroc, le nombre de femmes dans des postes managériels reste faible et le nombre de femmes représentées, en tout cas qui représentent des conseils d'administration, en tout cas dans de hauts niveaux d'instance, reste insuffisant. Et c'est pas faute de compétences, de capacités, mais c'est peut-être faute d'encouragement, j'ai envie de dire, d'encouragement et de justice.
Tu dis, ça dépend justement de sa propre histoire, de qui on a été. Mais encore faut-il en fait savoir qui nous sommes, quelles sont nos failles, quelles sont nos forces, travailler sur soi pour pouvoir l'idée, comme dans n'importe quelle sphère de la vie. Qui je suis, est-ce que je me connais assez pour connaître mes failles et mes forces pour devenir le meilleur manager possible, le meilleur PDG possible, la meilleure CEO possible, etc.
Je suis complètement d'accord avec toi. Devenir manager, devenir leader n'est pas de naissance, n'est pas acquis. On apprend à devenir manager, on apprend à devenir leader. J'ai même envie de te dire, on apprend à devenir femme et on apprend à devenir homme.
Oui, absolument. Je te l'accorde.
Oui, tout est dans l'apprentissage. Maintenant, être leader, être manager, c'est énormément de courage. Moi, c'est toujours comme ça que je l'ai vu. C'est d'abord beaucoup de courage. Être leader, c'est prendre des décisions au quotidien et savoir emporter son équipe vers un objectif donné. Ça veut dire les convaincre les influencer. En tout cas, ils doivent être en parfaite cohésion et confiance pour suivre leur leader. Et ça, c'est des choses qui s'apprennent. Certes, on est prédisposé de par notre parcours, la famille, l'éducation, l'école, les sports qu'on a pratiqués, les événements auxquels on a été confrontés, mais je suis convaincue que l'apprentissage reste l'essentiel.
Alors vous, justement, entre femmes leaders, j'imagine vous en parlez de cette évolution, de ce besoin de se nourrir, etc. Est-ce que c'est des discussions que vous avez entre vous? Quand je dis femme leader, je ne veux pas que ce soit finalement un préjugé, mais est-ce que les femmes leaders travaillent plus sur elles que les hommes? Parce que pour l'homme, le leadership, c'est une histoire d'homme, en fait, de mec. C'est inné.
Oui, enfin, tout dépend de comment on voit le leadership. Alors, oui, on en parle. On en parle entre femmes, mais on en parle aussi entre femmes et hommes. Être responsable de manière globale n'est pas une mince affaire. Mais les femmes dans le management ont une tendance à vouloir éviter qu'on leur colle un certain nombre d'étiquettes. Et donc vont éviter d'être dans l'émotionnel. Vont éviter d'être dans le trop d'empathie, trop de souplesse, ce qui à mon sens est une erreur. Il faut être soi et il faut apprendre à tirer le maximum de nos forces. Il y a des femmes qui sont plus dans l'influence, il y en a d'autres qui arrivent à l'idée par l'autorité ou par l'inclusion, un management plus inclusif, il faut que chacun de nous fasse les choses exactement comme il le ressent, en tout cas comme son instinct lui dit. Il faut suivre ses instincts et apprendre à cultiver ses forces. Mais il est vrai que les femmes ont tendance à éviter un certain nombre d'angles de management pour ne pas justement qu'on leur colle un certain nombre de stéréotypes. Et globalement, dans le cheminement, on a l'impression qu'il faut faire plus. Il faut faire plus pour être reconnu, pour mériter. On se questionne plus aussi. On se questionne plus, on se remet plus
en question. Donc le syndrome de l'imposteur, en fait, il suit la femme, quelle que soit son échelle ou là, sa hiérarchie, sa place dans la hiérarchie, dans l'organigramme.
Oui, c'est quelque chose qu'on entend souvent chez les femmes, mais que j'ai envie de dire que j'entends pas mal aussi chez les hommes.
Les hommes, c'est vrai?
Oui, aussi, parce que je pense que quand on atteint un certain niveau de responsabilité et de management, et quand on a l'intelligence de se remettre en question, ça passe par le syndrome de l'imposteur.
Oui.
Il faut avoir cette intelligence.
C'est très beau ce que tu dis quand on a l'intelligence de se remettre en question. C'est que justement, ce n'est pas donné à tout le monde de se remettre en question.
C'est pas donné à tout le monde. Et pour moi, ça peut être un frein clair à l'évolution et à la progression. Notre chemin, notre parcours est fait de réussite, mais surtout d'échecs. Ce sont nos échecs qui nous permettent de rectifier, d'être plus forts. Et de faire de meilleurs choix. Et si on n'a pas l'intelligence d'accepter nos échecs, de les analyser, de nous remettre en question et de changer, on ne peut pas évoluer. Et les gens qui s'arrêtent à uniquement revendiquer leur réussite, c'est souvent des gens qui n'avancent pas.
En tout cas, Maha Cohen, tellement de sujets encore que j'ai envie de discuter avec toi, notamment par rapport à la question de l'ambition. Je l'ai posée sous les yeux, mais après on a été emporté par la discussion, par la conversation. Tu as parlé d'ambition tout à l'heure, tu as dit c'est une question d'ambition. Je ne sais pas si brièvement on peut s'arrêter dessus, dans le sens où quand on parle d'ambition en fait, et c'est vrai que tout se joue autour de ce mot, l'ambition est intérieure, mais dans notre contexte à nous, il ne faut pas l'exprimer. Parce que sinon, elle est perçue, elle a cette connotation négative. Comment la femme peut-elle être ambitieuse et accepter son ambition sans être jugée pour son ambition?
Alors, moi, j'ai un parti pris. Si je dois être jugée pour mon ambition, je l'assume. Le jugement, être vu comme une personne ambitieuse, on peut être extrêmement mal perçu parce que on peut confondre ambition et j'ai presque envie
opportunisme,
de dire opportunisme, oui. Ouais. Ambition et opportunisme. Il faut savoir l'exprimer de la bonne manière. On a le droit d'être ambitieux. Mmh. Et il faut l'être. C'est ce qui nous nourrit au quotidien. C'est ce qui nous permet de nous projeter et avoir envie de continuer. Donc moi, je suis pour exprimer son ambition, quitte à être jugée, on l'accepte.
Et ça, c'est tout un travail et c'est tout un épisode que j'aimerais tellement qu'on fasse ensemble.
Oui, ça, là, en tout cas, c'est un peu plaisir d'échanger avec toi. Yes.
Plaisir partagé, Maha Cohen. Merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. C'était une fierté pour moi d'échanger avec toi. Une femme, justement, qui s'est construite, qui a évolué, qui a atteint des niveaux de management et de leadership très importants et puis qui garde ce côté extrêmement humble, humain, féminin. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.